that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. Le but du jeu, c'est de partager les ondes positives de mon invité. Le but du jeu, c'est de prendre 30 minutes où on va aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui donne envie de bouger, de s'engager, de s'investir. On approche de la période des fêtes, un moment où on va se retrouver autour de la table pour partager des bons moments ensemble ou des fois des moments où c'est peut-être un peu plus dur. En tout cas, c'est sûr que le plaisir de la table, il contribue à apporter un peu plus de douceur à la vie. Et la douceur, elle est au rendez-vous, madame, mesdemoiselles, messieurs, puisque c'est Charles Colombo que nous recevons à la Maison dans le Parc. Ça vous dit quelque chose ?
So good ! So good !
Salut Charles.
Salut.
Merci, parce que là c'est un peu une période de rush quand même. Enfin, c'est toujours le rush dans la restauration.
Bah oui, décembre c'est la dernière ligne droite parce que nous on est toujours en vacances début janvier. Donc c'est vraiment, c'est préparer les fêtes, préparer les beaux menus, les dernières échéances, les derniers événements, les repas d'entreprise, la vente à emporter, toutes ces choses-là. Quoi.
C'est complet là ?
C'est complet, on a à peu près autant de monde dedans que dehors, c'est-à-dire qu'on a une liste d'attente qui est aussi conséquente que la liste des invités, ce qui est toujours bon signe, mais voilà, on a réussi à remplir rapidement les restaurants, maintenant on se concentre aussi sur la vente à emporter. On a toujours cette petite offre un peu complémentaire pour les personnes qui n'ont pas toujours le courage ou la volonté de cuisiner. Donc ça prend de l'ampleur chaque année. Donc
vous avez envie de se faire plaisir avec un bon repas à la maison.
C'est ça, voilà. Alors c'est très simple. Hein. On a les classiques, le foie gras, un peu de caviar, un peu de truffe. Le bœuf Wellington, qui est un petit clin d'œil à mes années passées en Angleterre. Donc c'est le bœuf dans la pâte feuilletée, on l'a juste à l'enfourner. On a le risotto truffe champignon. Et puis voilà, les petits classiques.
On s'est arrêté,
les petits classiques sympas.
Ah là là là. Comment faire une émission après voilà. Donc revenons à la belle réalité de la table. Alors Charles, dis-nous juste un tout petit peu, dresse-nous le portrait des restaurants, parce que tu dis les restaurants, la vente à emporter. Ton activité aujourd'hui, c'est
alors,
quoi?
Alors l'activité, c'est la maison mère, un peu de le point de départ, on va dire. Donc c'est la maison dans le parc, hein, qui se trouve à Place Stanislas à Nancy, qui est le restaurant étoilé. On a, il y a un an et demi maintenant, lancé un food truck, donc Izakaya, qui est un petit peu notre petit frère sur roue qui arpente la métropole nancéenne. Donc là, c'est une offre vraiment accessible, c'est burger, c'est street food.
Ça veut dire que les organisateurs d'événements qui veulent faire un truc un peu sympa, ils appellent Charles.
Il y a ce volet-là, il y a aussi les entreprises. On est au pied des entreprises, on est à Decathlon, on est à Leclerc, etc., La Poste. Et on fait aussi des privatisations donc pour les particuliers, mariage, baptême, anniversaire, etc. On a ça. On a...
Donc ça, c'est pour la partie food truck.
Ça, c'est le food truck. Donc Nancy et environ, on va dire. On a les deux nouveaux restaurants qui viennent d'ouvrir donc, au mois de juin au centre Pompidou de Metz. Donc il y a la brasserie Oumé, qui est une brasserie, encore une fois, accessible. Accessible en termes de saveur et accessible en termes de portefeuille. Parce que c'est les petits plats de bouchon français, un petit peu japonisés, un peu revisités. Et on a au dîner, toujours au centre Pompidou, dans une autre salle, Yozora, qui est, lui, un restaurant gastronomique. Et ce qu'il est bon de comprendre, c'est que ces deux opérations n'opèrent jamais en même temps. La brasserie seulement au déjeuner avec une équipe dédiée, et le restaurant gastronomique seulement au dîner avec une autre équipe.
D'accord, même lieu.
Même lieu, alors ce sont deux salles différentes.
Pas tout à fait deux salles, mais voilà, ouais. Secteur géographique.
C'est le même ascenseur pour rejoindre les deux.
Et on a deux univers à midi.
Exactement,
et le soir.
Voilà. C'est encore très différent de ce qu'on fait à Nancy, et c'est là où c'est un peu la richesse de cette nouvelle offre, on va dire. C'est qu'on a réussi à créer quatre univers bien distincts.
Alors on voit l'univers du food truck, tu l'as dessiné, voilà. Tu nous dessines les trois autres.
La maison dans le parc, bah, c'est notre restaurant étoilé, c'est de la cuisine... Voilà, très précise, le terroir de Lorraine, des belles techniques françaises, gourmands, généreux. Tout en respectant bien sûr les codes de la haute gastronomie, avec toujours cette influence un peu japonaise qui se justifie par l'expérience que j'ai eue moi au Japon, où j'ai passé presque 5 mois maintenant cumulés sur mes différents voyages là-bas, et où j'ai ramené toutes ces techniques, tous ces assaisonnements notamment, et ces sensibilités. On a le food truck, voilà, offre street food. On a la brasserie, bah, la générosité, les petits plats à partager, bien gourmands. Et Yozora, où là, c'est encore une fois, c'est de la cuisine gastronomique, mais c'est pas du recyclage de plats qu'on fait ou qu'on faisait à Nancy. C'est encore une fois, c'est très singulier, c'est très précis, toujours les produits de saison qui rythment les créations. Et encore une fois, on s'est engouffré un petit peu dans cette sensibilité japonaise, avec de beaux produits, de beaux assaisonnements, qui viennent sublimer encore une fois les produits du terroir de Lorraine.
Bon, allez, on a dressé le cadre. Comment on tombe dans la gastronomie ? Alors, comment on tombe dans la restauration ? Qu'est-ce qui a fait que, dans les années 2010, qui constitue la première date importante dans ta vie ?
C'est ça, donc j'ai commencé en 2010, à l'époque j'étais au lycée hôtelier à Biarritz, donc bien loin d'ici. Et je m'y suis pris un peu par hasard, en fait je sortais d'une blessure à la main qui m'a... poussé, qui a été, on va dire, une opportunité pour moi pour décrocher un peu scolairement. Et je faisais beaucoup de basket à l'époque, donc ça m'a aussi affecté psychologiquement.
On va prendre le temps d'expliquer ça, parce que alors, le but de Feel Good, c'est de dire comment on rebondit, comment on a toujours de l'énergie. Alors, on peut le voir à travers le côté entrepreneurial, et puis on peut le voir ce moment clé de 2010, où quand même, l'école, c'était une chose, la passion, elle était quand même dans le sport, et il y a une blessure qui arrête tout.
C'est ça, donc en plus le contexte fait que à l'époque je me retrouvais tout seul avec mon père à Mont-de-Marsan, on venait de déménager, ma mère était restée à Orléans parce qu'elle n'avait pas encore trouvé de travail, etc. Donc je me retrouve un peu tout seul, sans mes petits compagnons avec lesquels j'ai fait toute ma scolarité, mes coéquipiers de basket, etc. et qui je jouais depuis plus de 10 ans. Et je repars un peu à zéro à Mont-de-Marsan.
Boum, la blessure.
Et cette blessure me fait vraiment décrocher, je me renferme un peu. Et à l'époque, j'avais dans mon équipe de basket un copain qui était au lycée hôtelier de Biarritz. Et face à l'échec cuisant qui m'attendait, et vraisemblablement redoublé ma seconde, je me voyais pas m'engouffrer encore une fois dans un truc... bancal et me dire sans projet qu'est-ce que je vais faire, je recommence, je me dis je vais changer complètement de voie et je me prends au jeu, je vais aux portes ouvertes, je rencontre un petit peu, je visite le lieu et je m'inscris en bac technologique et hôtellerie, je fais mon premier stage en salle, ça me plaît pas du tout, en plus je tombe dans un truc complètement famélique. Le gérant me fait nettoyer les jantes de sa bagnole parce qu'on faisait aucun client. Je ramasse les feuilles sur sa terrasse. Enfin, je fais tout sauf de la restauration.
Donc, c'est un peu le cliché du mauvais
Exactement,
lieu.
Exactement. Ouais. Donc, je commençais à lorgner un petit peu sur la cuisine, que je trouvais plus fun. C'était vraiment un restaurant de bord de route, de campagne. Enfin, c'était une catastrophe, ce truc-là. Je pense que ça a fermé même d'ailleurs depuis. Et deuxième stage, par contre, je me retrouve chez Jean Cousseau à Majesque, qui a 2 étoiles au guide Michelin. Qui est le plus vieux 2 étoiles de France, sans discontinuer. Et là, je tombe dans une brigade de 30 cuisiniers. On n'est que des jeunes pubescents. Il y a une effervescence qui est incroyable là-dedans. Je retrouve cette rigueur un peu militaire, un peu sportive, parce qu'il faut les canaliser, les 30 garçons, et, dont je fais partie. Et je trouve ça passionnant, cette précision, cette rigueur. Que je sens et que je perçois dès le début. Ça me va bien, parce qu'à l'époque... j'avais un peu, on va dire, ma turbulence s'était un peu aggravée, c'est-à-dire que j'avais tendance à être un peu chaud, et ça m'a fait du bien de tomber, on va dire, entre guillemets, sur plus fort que moi, et de poser un peu un cadre à mon énergie débordante. Et donc je me prends complètement au jeu, je tombe amoureux du métier, s'ensuit un apprentissage de 2 ans à Biarritz, dans un autre restaurant étoilé, Michel Gard, 3 étoiles pendant presque 3 ans, La Meloise, 3 étoiles en Bourgogne, au Sauce, ensuite l'Angleterre pendant 4 ans, mon premier poste de chef dans un restaurant étoilé.
On va y aller. Bon, l'énergie est là tout le temps. Beaucoup d'énergie, tu le dis toi-même, d'ailleurs il faut la canaliser, cette énergie. Déjà gamin, alors le sport a contribué à ça, je pense, c'est ça,
Le sport, c'est mon exutoire, encore aujourd'hui, c'est... Le tennis, encore un peu de basket quand je peux, un peu de course, un peu de renforcement musculaire. Je préfère dire renforcement musculaire plutôt que muscu, parce que c'est pas dans la recherche d'un esthétisme particulier, c'est un besoin pratique et physiologique et ergonomique, c'est-à-dire que quand on fait des journées de 17 ou 18 heures debout ou en position cambrée ou les mains dans le froid, dans le chaud, etc., il faut que le corps suive. Donc tout ce que j'ai eu fait, parce qu'il y a un moment où j'en faisais un peu plus, c'était vraiment dans le but de renforcer mon corps, et c'est là où le sport a des bienfaits incroyables sur l'esprit et sur le corps, parce que ça permet vraiment d'avoir cette force psychologique et mentale pour gérer et vivre avec cette pression qui est constante. Et aussi physiquement, ça permet d'être bien dans ses pompes et de ne pas être en souffrance perpétuelle.
Alors, je reviens à cette période charnière de 2010, parce que c'est vraiment charnière. On ne peut pas dire que c'était tout rose, tout nickel. Il y avait plein de questions liées à l'adolescence. Tu avais 16 ans à l'époque. Enfin, voilà, mm-hmm. C'était la grande adolescence, 16 ans, d'accord, 18, d'accord. Ouais. Mais voilà, ouais, 16-18, ouais, voilà. Donc, jeune adulte, quoi, voilà. Plein de questions. La cuisine n'était pas tombée du ciel. C'était pas, voilà, c'était une révélation par un copain, une découverte par un copain. Comment tu positionnes la cuisine dans ta vie, dans ta raison d'être, je dirais, pas tout à fait quand même, mais...
La cuisine, maintenant, et ces parties-là, fait pleinement partie de ma vie, c'est-à-dire que moi, j'ai plus le sentiment de cuisiner, en plus, je suis chez moi. La cuisine, c'est un moyen d'expression. Moi, je ne suis pas très loquace, malgré l'engouement qui peut y avoir des fois sur certaines interviews. Quand on me donne la parole, je la prends avec plaisir, mais je suis plutôt d'un naturel discret et introverti, sans être timide, il ne faut pas confondre. Et donc je trouve que c'est un moyen d'exprimer sa sensibilité et un côté artistique, peut-être un peu refoulé. J'ai une vraie sensibilité à l'art, à la matière, les textures.
Est bien dans pas une raison d'être, mais une façon d'être en tout cas.
Oui, alors c'est une façon d'être, oui, parce que je suis le même en cuisine qu'en dehors, c'est-à-dire que la rigueur que j'ai en cuisine, je l'ai avec moi-même au quotidien, chez moi, cette discipline, elle m'accompagne, quoi. Donc la cuisine, c'est un moyen d'exprimer ma personnalité et qui je suis vraiment, alors sans en faire des caisses, mais...
Non, sans en faire des caisses, on a bien compris, mais alors, tu disais la rigueur, quoi, on a bien compris, la rigueur, c'est quelque chose qui incombe et qui est nécessaire pour le métier. En même temps, la création artistique, explique-nous un petit peu comment il y a une création et comment tu donnes la place à l'art.
La place à l'art, alors moi je me qualifierais
jamais...
Et sans
se prendre la tête, on est d'accord, je sais.
Je me qualifierais moi jamais d'artiste, mais les arts culinaires, on va dire la cuisine comme on la propose nous au restaurant, il y a énormément de dimensions et d'aspects qui rentrent en jeu. Il y a l'esthétisme, c'est sûr que c'est indispensable, il faut... savoir marier les couleurs, il faut que ce soit plaisant à l'œil. On mange d'abord avec les yeux, donc il y a toujours aussi une vraie réflexion sur comment rendre joli ce qu'on a envie de cuisiner. Faut pas que ce soit une fin en soi, bien sûr, le visuel, mais ça conditionne aussi énormément l'expérience, et c'est ce qui va nous démarquer des fois d'autres cuisines.
C'est déjà les papilles des yeux, alors.
C'est ça, il y a bien sûr l'association des goûts qui révèle d'une vraie réflexion, c'est-à-dire qu'on va chercher, nous, dans notre bibliothèque de connaissances et de goût, comment créer des associations innovantes. Moi, c'est comme ça que je crée mes plats. Je la force, la création, c'est-à-dire que je la subis pas, j'attends pas.
C'est toi qui, tu te dis, tiens, cette saveur-là, je pourrais la marier avec celle-là?
Alors, oui, il y a ça, mais il y a aussi forcer le rythme de la création, c'est-à-dire qu'avec un calendrier très soutenu de changement de menu, on change la carte tous les premiers mercredis du mois. On change le menu du déjeuner très souvent, on a le menu de dégustation qui peut changer même plusieurs fois pendant le service. Je m'impose ce rythme parce que j'ai pas envie qu'on stagne. Pour moi, l'immobilisme, c'est la pire des choses, et tomber dans une routine, on peut pas nous souhaiter pire que ça. Et ce mouvement va générer de la création, et c'est là, en essayant de chercher des associations que moi-même j'ai jamais goûté ou jamais vu, c'est avec cette optique-là qu'on arrive à créer, j'espère en tout cas, des choses un peu différentes et un peu singulières. Voilà.
Alors, les sources d'inspiration, on va aller les visiter juste après une pause musicale. Ah, merci, c'était les années 80 qu'on va retrouver avec grand bonheur. Tu écoutes tout en musique ?
J'écoute tout. Alors, en ce moment, je suis très années 80. Un peu d'électro des années 80, un peu de musique pop, hip-hop, rap, 2000, enfin voilà.
Allez, on se l'écoute tout de suite. Merci. Charles Colombo, dites donc, ça nous amène du rythme, c'est I Feel Good.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
La musique, on a le temps de l'écouter de temps en temps, Charles ?
Ah oui, toujours.
Toujours.
Alors, jamais en cuisine, parce qu'en cuisine, bon, il faut être concentré.
Ouais.
Mais toujours sur tous les trajets, écouteurs, à la maison. Ma fille, c'est pareil, le matin, je lui mets la musique à fond, elle adore, enfin voilà.
D'accord.
C'est ça.
Voilà. Une petite info en passant, donc ça veut dire une enfant.
Oui, une petite fille qui a 3 ans et demi, ouais, Maria.
Salut Maria. On était dans la création, les sources d'inspiration. Deuxième date importante dans ta vie, 2016, tu pars en Angleterre.
Alors 2016...
Est-ce que c'est une source d'inspiration l'Angleterre ?
Alors ça a été, pas une révélation entre guillemets, mais ça a été une prise de conscience parce que j'y suis allé, j'avais déjà un peu de bagage à l'époque, ça faisait 7-8 ans maintenant que je faisais de la cuisine dans des... 1, 2, 3 étoiles.
Alors c'est ça qui m'a impressionné dans ce que tu disais tout à l'heure. Le premier, pas bon, quoi, mais une capacité dans ce métier de passer à 2 étoiles très rapidement.
Bah 2 étoiles, j'étais stagiaire, hein, donc quand stagiaire, on est de la friture, hein, donc j'y suis allé avec beaucoup d'humilité, et puis voilà, je faisais mes petits trucs. Alors c'est sûr, j'avais pas des responsabilités incroyables, mais...
c'est une école d'humilité.
C'est une école d'humilité, et j'ai pu... je pense montrer quelques traits de mon caractère qui ont été perçus et bien perçus, bien reçus.
Ouais.
Donc ça m'a encouragé à poursuivre.
Il y a une détection.
Ça. Ouais, ouais. Alors, détection peut-être, ouais. Mais j'ai eu des bonnes discussions avec les chefs de l'époque, avec Jean Cousseau, avec qui j'échange encore quand on se voit au Michelin chaque année. Et puis avec Franck, qui était chef de cuisine, voilà, qui m'avait bien encouragé à poursuivre dans cette voie à l'époque.
Pardon, je t'ai coupé. Tu partais en Angleterre, c'était toujours dans la mesure. Tu dis, c'est pas une révélation, mais enfin,
alors,
c'est quand même une
découverte. C'est une prise de conscience parce que j'y suis allé avec les a priori qu'un cuisinier français de 24-25 ans peut avoir. Je m'attendais pas à grand chose. Et en fait, bon, il y a un courant culinaire en Angleterre qui s'appelle le Modern British,
ouais.
Qui est tout à fait respectable et remarquable. Il y a beaucoup de chefs qui l'incarnent. Il y a Claire Smith, par exemple. Gordon Ramsay, c'en est la bonne illustration, quand il cuisine, qu'il ne fait pas des émissions de télé. Voilà, il y a cette vraie mouvance, et c'est surtout, en fait, se rendre compte que sous nos pieds, peu importe où on peut se trouver, il y a d'excellents produits, et l'effort à fournir pour les trouver est plus ou moins difficile selon la région dans laquelle on se trouve. Mais en Angleterre, il y avait de magnifiques produits. J'étais à 25 minutes de Brighton, donc on avait des produits de la mer incroyables, des produits qui pour moi ressemblaient un peu au terroir normand, ça m'a rappelé un peu ma Normandie natale. On avait de magnifiques produits d'élevage, des agneaux, de la viande bovine, on avait des ombles chevaliers, enfin il y avait vraiment des cailles, des produits incroyables, comme on retrouve ici en Lorraine. Et ce qui est certain, c'est que ça demande un effort certain et particulier pour les trouver et les dénicher. Mais une fois qu'on a créé les relations de confiance avec les personnes qui produisent ou élèvent, tout de suite, ça se ressent dans la cuisine. Il n'y a quasiment plus rien à faire après.
Combien de temps en Angleterre ?
4 ans.
4 ans d'inspiration.
4 ans. Donc c'est ma première place de chef, donc dans un relais château qui avait une étoile, au sud de Londres.
Donc là, chef.
chef, ouais, alors sous-chef puis chef. Et ensuite, pendant cette période-là, 6 mois de travaux, donc cuisine et restaurant fermés. Et c'est à ce moment-là que je pars au Japon en utilisant le réseau des relais châteaux auquel j'appartenais. Et donc, je pars travailler plusieurs mois au Japon dans un autre relais château. Une expérience qui a été aussi très riche et qui a marqué un petit peu, je pense, l'influence de ma cuisine aujourd'hui avec cette sensibilité, on va dire, un peu aux assaisonnements nippons. La recherche de l'umami. Donc, l'umami, c'est cette cinquième saveur qu'on associe à la sauce soja pour la cuisine japonaise. Mais pour la cuisine européenne, ce sera une tomate rôtie au four, un morceau de parmesan, le goût du poulet rôti, etc. C'est ça l'umami, donc c'est la cinquième saveur. Et je pense que c'est quelque chose qui définit bien ce qu'on fait aujourd'hui, où on a cette influence qui est un peu latente dans toutes nos créations.
Ça veut dire que tu aspires à l'Asie ?
J'ai toujours un œil tourné vers l'Asie, oui, c'était un peu le projet avant d'ouvrir à Metz. Quelques mois près, on s'apprêtait à ouvrir au Japon. Le business plan était prêt, bien ficelé, traduit en 3 langues, relié.
Ah oui.
On l'a même donné au maire de la ville de Kanazawa, qui est jumelée avec Nancy, une ville dans laquelle j'ai eu la chance d'aller en 2017. Et donc voilà, en fait, le centre Pompidou est arrivé au moment où on était en train de regarder un peu le recrutement et définir un local. Et on s'est dit pourquoi pas utiliser le lieu comme un incubateur et aussi comme l'occasion de se diversifier un peu et de s'ancrer encore un peu plus dans le terroir et le territoire. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais l'Asie, c'est certain que...
Il y aura quelque chose.
Il y aura quelque chose. Cette année, par exemple, en 2024, j'ai passé 6 semaines en Asie, entre le Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Japon. Donc voilà, c'est une vraie source d'inspiration, pas seulement en termes de cuisine, mais aussi en termes de management, de philosophie. Donc voilà, il y a des choses à faire, c'est certain là-bas.
Étonnant, quand on a deux spécialistes aussi culinaires du secteur, les marchands et Muscard, les deux ont des attirances, appétences aussi pour l'Asie.
C'est marrant parce que marchands, c'est des bons copains et on a fait plusieurs événements ensemble en Thaïlande. Et Muscard, j'ai un des fils Muscard avec moi en cuisine en apprentissage, dont on est très content. Voilà.
Ok, donc ça va ouvrir du business direct avec l'Asie un jour ou l'autre. Oui, mais alors comment on arrive à Nancy alors dans tout ça?
Un peu par hasard. Donc en fait, fin 2019, je commence à m'intéresser pas mal au concours parce que ça faisait un moment que j'étais en Angleterre. Je dis pas que je tournais en rond, mais j'avais le sentiment que j'avais fait un peu le tour de l'outil. C'était une grosse machine, hein. On était ouvert du matin jusqu'au soir 7/7, toute l'année sans un jour de fermeture. En Angleterre, ça commence par le breakfast service avec 30 couverts et le breakfast là-bas, c'est quand même assez sérieux. On faisait du hareng, on faisait du boudin noir, des rognons d'agneau dès 7h le matin, donc il faut quelqu'un qui sache un peu cuisiner. Ensuite, on avait le déj. Ensuite, on avait les afternoon tea, donc le goûter en gros. Ensuite, on avait le dîner et le room service.
Tout le temps, maintenant.
Donc, c'était sans fin, on n'arrêtait pas. Donc, je commençais un peu à avoir fait le tour du truc. Donc, j'ai commencé à m'inscrire à des concours de cuisine. J'en ai fait 3. J'en ai remporté plusieurs. J'ai remporté le Tétinger, qui est qualifié un peu comme l'Everest de la gastronomie. Donc, je remporte la finale anglaise pour désigner le champion international. Et donc, je représente l'Angleterre à la finale internationale à Paris et je gagne pour
l'Angleterre à Paris.
Voilà, à Paris. Donc, un petit pied de nez. Un vrai déclencheur. Ça,
ouais. Et pour que les Anglais gagnent, il faut les Français.
Il y a beaucoup de... C'est ce que je disais souvent.
J'arrête,
rigoler que les plus grands chefs anglais étaient français.
Allez, on arrête, Charles, promis. Allez, l'atterrissage à Nancy.
Donc, le Tétinger débloque un nombre incroyable d'opportunités. Je reçois, je crois, une trentaine de propositions d'emploi en France. Ouais. Donc, je décide de rentrer en même temps que le Covid. Donc, finalement, je passe quelques mois confiné dans le jardin de mes parents à Mont-de-Marsan. Ce qui me laisse le temps de me remettre un peu à niveau parce que j'avais tellement bossé pendant ces dernières années.
Il fallait poser.
Il fallait que je me pose un peu et que je mette de l'ordre dans mes affaires. J'en ai profité pour me remettre à jour sur beaucoup de choses, beaucoup de paperasse. J'ai formalisé toutes mes recettes. Aujourd'hui, dans l'ordinateur du restaurant, il y a 2500 recettes qui sont tapés et ce sont des recettes qu'on a fait.
C'est organisé,
donc
c'est rangé.
Ça, il a fallu que je les remette à niveau parce qu'il y avait des choses qui traînaient dans des carnets depuis mon apprentissage. On a développé beaucoup de procédures, de contrôles, de fiches techniques, etc. Tant et si bien que quand on est sollicité par un chasseur de tête à l'été 2020, qui est mandaté par la famille Mutel, donc les anciens propriétaires de la maison dans le parc, on voit cette belle opportunité, mais malgré le fait qu'on ne connaisse pas Nancy et qu'il faille faire la grande diagonale de 1000 km pour s'y rendre, on y va par curiosité et puis on se prend au jeu. Et bon, le deuxième confinement arrive, la vente en rayon portée, etc., qui n'est pas une période très reluisante, mais juillet 2021, on rachète définitivement l'intégralité du restaurant. Et c'est là que l'aventure Colombo, on va dire, entre guillemets, l'ère Colombo commence.
Une activité, on l'a vu tout au début de l'émission, florissante, avec du développement, avec des... Où est-ce que Charles prend du temps pour lui et ceux qu'il aime ?
Bah, mon temps, il est là, c'est-à-dire que je suis en permanence connecté avec mes établissements, avec mes équipes, avec le restaurant. Le temps, je ne l'ai pas en mes jours de repos, on est fermé 3 jours par semaine, dimanche, lundi, mardi.
Ça, ça a changé quand même. Hein.
Ça, c'est du nouveau. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour les équipes et pour tout le monde, parce que ça fait du bien aussi. On travaille dur. On mérite bien de pouvoir souffler. Le dimanche, c'est quand même un jour particulier. Moi, je suis content de ne plus travailler le dimanche. Alors, on travaille un dimanche de temps en temps pour faire vivre aussi le lieu, faire vivre un peu d'événementiel. On fait beaucoup de déjeuners à quatre mains avec d'autres chefs, par exemple. Ah. Ou des,
ouais, c'est
des
du plaisir, c'est de l'événementiel.
C'est du plaisir, voilà. Ça, on n'a même plus le sentiment de bosser.
Plus pareil, ouais.
Et puis, je prends du temps pour moi, quand je peux, entre les services. Mais je ne m'oublie pas, et puis je n'oublie pas les gens qui comptent et qui m'entourent, voilà, qui grandissent en même temps que toutes ces activités-là.
Est-ce que Charles sait dans 10 ans où il sera et...
Dans 10 ans, je ne sais pas où je serai, mais j'espère que j'aurai pérennisé tout ce qui a été lancé là. J'aimerais continuer à développer un peu cet écosystème vertueux et solidaire, parce qu'on est aussi attaché à ça, faire rayonner les initiatives locales. Moi, je suis toujours partant, comme là, venir partager mon expérience dans des radios locales, avec les Restos du Cœur. On est très engagés aussi, on fait beaucoup de choses toutes les semaines avec les Restos du Cœur, on fait de la soupe, on est très fiers de cette initiative là parce que chaque année on fait presque 3 tonnes de soupe. Donc voilà, j'espère être à la tête de cet écosystème, d'être aussi à l'initiative de la formation d'une génération de chefs, pas forcément à mon image, mais qui auront commencé avec nous, qui se seront développés au sein de ces établissements là et puis qui seront heureux. Voilà, j'ai envie d'avoir des gens qui ont envie d'être là autour de moi, qui soient heureux, contents, qui ne cuisinent pas dans la souffrance, et développer un peu cette philosophie, et puis la répandre. Voilà,
il y a toute un petit peu de société, allez, sans employer les grands mots, mais il y a une volonté d'intégrer, de permettre à tous d'avoir sa chance aussi.
Je pense que...
Je sais que tu n'aimes pas trop l'aborder.
La cuisine, c'est aussi une excellente école de la seconde chance. Moi, un jour, on m'a donné ma seconde chance. Sans ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, on essaie de se faire le vecteur de tout ça.
Merci. Merci pour l'art partagé. Merci du fond du cœur.